France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
C'était le vendredi soir. Le concerto numéro 1 de Rachmaninov nous envoyait dans nos chambres. Les parents étaient devant apostrophe et rien ne pouvait les déranger. Les miens n'étaient pas de très grands lecteurs, mais ma mère adorait écouter parler Gendarme Messon, recordman des invités de Bernard Pivot. Dans les images d'archives qui se mélangent aux souvenirs d'enfance, il y a des fauteuils très larges, il y a des clopes qui fument au doigt d'un invité sur deux et Pivot qui joue avec ses lunettes de la main droite, le livre ouvert dans la main gauche. On a tous fini par regarder aussi apostrophe et puis bien sûr Bouillon de culture. La génération Pivot, c'est celle qui allait en librairie dès le samedi, demander le livre que j'ai vu hier chez Pivot, quand on avait oublié le titre de l'auteur ou l'auteur. Parfois, il y avait même des tables apostrophes dans certaines librairies. Et au plus fort de l'émission, 6 millions de téléspectateurs devant leur télévision. Il était prescripteur, c'est peu dire. La moindre réserve de ma part mettait fin à la vie d'un livre, dira-t-il après. Un peu désolé quand même. Il aimait les livres, Bernard Pivot, il aimait les auteurs. Il a rencontré Solzhenitsyn après l'archipel du Goulag, il a proposé du thé à Nabokov, il a vu tituber Bukowski, il a abrité, arbitré l'engueulade entre Guy Béard et Serge Gainsbourg, il a écouté Duras parler de l'amant. Après apostrophe et Bouillon de culture, il y a eu le prix Goncourt, bien sûr, la dictée, et puis toujours la gastronomie, le football, et ce fameux questionnaire de Proust à la fin des émissions, à invité unique, votre héros dans la fiction, votre mot favori, et comment voudriez-vous mourir ? Nous rendons hommage à Bernard Pivot ce soir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nathalie, vous êtes à Montpellier, vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne. Bah, écoutez, vous avez tout dit de ce que je voulais dire.
Ah bah raccrochez alors Nathalie, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Non, mais j'ai appelé tout de suite quand j'ai entendu le sujet, parce que moi, ben, mes parents non plus n'étaient pas de grands lecteurs, mais j'étais devant tous les soirs. J'étais déjà une grande lectrice, mais il m'a fait découvrir énormément de choses. Et c'était pas juste quelqu'un qui aimait les livres, mais il les rendait vivants. Moi, je me rappelle de débats chez lui, incroyables. Je me rappelle de Denise Bombardier, ça, m'en rappelle très très bien face à Madnef. Je me rappelle aussi qu'il avait dit, en levant le livre de William Boyd, de Comme neige au soleil, celui-là, je vous le dis, si vous n'êtes pas content, je m'engage, je vous le rembourse, vous m'appelez. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire et je l'avais découvert du coup. Et j'ai lu tous les livres de William Boyd derrière. Et ça, je trouvais ça merveilleux, cette capacité incroyable à faire vivre ces livres-là et à donner envie, à faire parler Modiano. Moi, j'ai découvert Modiano.
Ah, on a le même souvenir.
Mais bien sûr, c'était tellement incroyable. Mmh. On le plaignait tellement,
absolument.
Modiano.
Oh,
et c'était quand même... Enfin voilà, moi, Pivot, c'est celui qui m'a certainement fait découvrir le plus grand nombre d'auteurs possible. Et j'en serai éternellement reconnaissante. Et voilà, aujourd'hui, je voulais le dire parce que c'était important pour moi.
Eh ben, c'est formidable, Nathalie. On est absolument ravis de vous avoir eu. Et c'est marrant parce que vous avez raison. Vous disiez tout à l'heure en plaisantant, vous avez tout dit. J'ai le même souvenir de Modiano qui a un mal considérable à parler, le pauvre, et Pivot qui l'aide comme c'est il ça. Le peut et comme il l'a fait avec tant d'autres.
C'est ça, exactement. Et voilà, et tout ça, c'était Pivot. Et alors, j'ai pas tout aimé, bien sûr. J'ai des livres que j'ai qu'il a. Mais ça fait rien, c'était pas grave. Il en parlait, on en parlait, et ça, c'était formidable.
Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, merci beaucoup pour cette jolie introduction, pour discuter ensemble. Il y aura beaucoup de gens qui passeront au téléphone sonne. Mais avec nous, il y a Ilana Mourioussef qui est là, assise à côté de moi. Bonsoir, Ilana.
Bonsoir.
Celle des livres, dans la rédaction de France Inter. Celle qui les lit, qui en parle, c'est vous. Et puis, Jérôme Garcin, qu'on est ravis d'avoir avec nous. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir Fabienne.
On vous présente pas, Jérôme, le masque et la plume, ça a été vous pendant très longtemps, même si désormais c'est Rebecca Manzoni. Vous avez toujours le bloc-notes dans le Nouvel Off. Ce que j'entends, Jérôme Garcin, dans ce que nous dit Nathalie, ce que je trouve génial, c'est que elle se souvient de certains auteurs, mais elle se souvient surtout de Pivot parlant avec les auteurs.
Oui, quand on dit les auteurs, évidemment ce sont les écrivains, mais c'est aussi les philosophes, les penseurs, c'était Jean Kélévitch, c'était Lévi-Strauss, c'était Dumézil, Foucault, Michel Foucault. Ce qui était extraordinaire, moi je trouve qu'il a incarné ce que disait très bien votre auditrice, ce qui n'existe plus, c'est une télévision nationale populaire. Il parlait au nom de tout le monde, et d'abord pour celles et ceux qui n'ont pas forcément été éduqués dans la culture, et même je dirais que la littérature pouvait intimider. Ça, c'était unique en son genre. Et puis il faut aussi ajouter une chose qui était unique, c'était son intégrité. Voilà un animateur qui, il a fait quoi, 15 ans d'apostrophe.
15 ans d'apostrophe, bouillon de culture derrière.
après double jeu, sans jamais créer de société de production. Mmh. Il n'a jamais fait fortune. Il a été l'homme du service public dans le plus beau sens du terme. Et je pense que cette intégrité, à l'époque, il faisait apostrophe. Souvenez-vous, il ne fréquentait ni les écrivains, en dehors de son plateau, bien sûr, ni les éditeurs. Mmh. Il était vraiment unique. C'est une intégrité qu'on ne trouve plus jamais. Ne parlons pas des ménages, c'est-à-dire les occasions pour les animateurs de télé de toucher de l'argent en dehors de leur fonction.
On a eu Antoine Gallimard il y a quelques instants, Jérôme Garcin, dans le journal de 18h, et je lui posais la question, je lui disais, comment vous faisiez? Est-ce que vous alliez, est-ce que vous poussiez pour que vos bouquins passent chez Pivot? Parce que c'était vraiment la promesse d'une vente derrière. Et il m'a dit, oui, on essayait, mais on n'y arrivait pas toujours, voire rarement.
Oui, et puis c'est vrai que c'était cette intégrité qui s'ajoutait à une vertu, mais unique, qui est celle de passeur de lettres. Quoi. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ce métier, c'est faire amener le plus grand nombre aux plus belles choses. Alors, lui, c'était les livres, mais ça a été aussi avec à l'époque de Bouillon de Culture pour le théâtre. Il adorait le théâtre, on le sait pas beaucoup. Mmh. C'était un pilier de la comédie française. Il adorait le cinéma. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était encore une fois de faire aimer ces plus belles choses au plus grand nombre. Et ça, pour moi, c'est vraiment unique. C'était, j'ajoute ça, mais de manière plus personnelle, un homme d'une modestie incroyable. Là encore, c'est un cas unique dans l'audiovisuel qui ne se préférait.
J'espère qu'on n'a pas perdu Jérôme Garcin. J'en profite pour me tourner vers vous, Ilana Mor-Youssef, parce qu'on va avoir Daniel Picoulu dans un petit instant. C'est un peu ce que disait Jérôme Garcin aussi. Il y avait ce mélange. Il y a eu des gros Marguerite Duras, il y a eu des Nabokov, il a cité des Foucault. Et
une émission mémorable avec Marguerite Yourcenar, qu'il était allé voir sur son île.
Exactement. Et en même temps aussi, des écrivains populaires, des écrivains, des page-turners, des gens qui étaient des écrivains beaucoup plus accessibles que d'autres. Enfin, il y avait vraiment ce mélange-là.
Oui, absolument. Il avait à la fois une portée, une attention aiguë, évidemment, au grand succès populaire, en se demandant mais pourquoi ça marchait, qu'est-ce qui marchait là-dedans. Et lui-même, il trouvait du plaisir, ça se sentait. Mmh. Et il avait le souci d'ouvrir les portes, en fait, des grandes œuvres au plus grand nombre. Mmh. Et il le faisait... pourquoi il y arrivait? Parce que tout le monde a cette ambition. Mais lui, il y arrivait parce qu'en fait, il ne se plaçait jamais en surplomb, en fait. Il était exactement à égalité avec le lecteur. Alors, en vrai, il n'était pas tout à fait à égalité. Il connaissait quand même pas mal de choses. Mais il avait, dans sa façon, par exemple, d'interroger les écrivains, il posait les questions en faisant semblant de ne pas connaître les réponses. Mmh. Voilà.
Et peut-être aussi parce qu'il n'était pas du sérail. J'y mets des guillemets, on y reviendra dans un instant. Je voudrais saluer Daniel Picoulu qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, vraiment. Et voyez, Daniel Picoulu, quand je parlais à la fois d'auteur, de roman extrêmement exigeant à côté de romans populaires, et je suis convaincue que ça ne vous fait pas injure une demi-seconde, les romans populaire, c'était vous, et ça marche aussi avec un Bernard Pivot autant que les autres auteurs.
Oui, parce que Bernard Pivot, c'était Bernard Pivot déjà premièrement, et ensuite, il y avait moi, en tout cas, moi j'avais une relation, vous savez, aujourd'hui, on était un jour où tout simplement, moi, à 11h13, j'ai envoyé le manuscrit de mon roman. Mm-hmm. Et je peux vous assurer qu'il y a des tas de romanciers, d'auteurs ou d'autrices qui, quand ils terminent, se disent... Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être invité chez Pivot, bien sûr pour être invité chez Pivot, mais pour savoir ce qu'il en pensait, quel œil il portait sur moi, parce qu'il était d'une grande acuité, d'une grande générosité, d'une grande ouverture, mais on avait envie de savoir. Et moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une relation assez serrée avec lui, parce qu'il venait dans les salons, et le bonheur de l'alphabet, c'est que Picoulu et Pivot était des fois assis l'un à côté de l'autre, et je vous assurais, alors là je vous dis tout de suite, on ne parlait quasiment pas de littérature, il ne fallait pas essayer de lui placer un bouquin, voilà, non, on parlait
De foot.
Bien sûr, on parlait de foot. Et il était un lecteur assidu de l'Égypte. Il était un supporter quasi fanatique des Verts. Et je pense qu'il a apprécié dans ses derniers moments l'épopée des Verts. Donc c'est de ça, c'est aussi ça qui me plaisait dans Bernard Pivot, c'est qu'on pouvait parler. Et c'est pour ça qu'il avait cette espèce d'antenne populaire, de relation populaire avec les gens, parce que aussi lui, ses goûts était de cet ordre-là. Moi, je suspecte Bernard Pivot, si on lui avait donné le choix, d'être champion du monde de football, hein, comme tout le monde, j'allais dire, à une époque. C'est-à-dire que quand on parlait des grands joueurs, il était émerveillé. Et là, lui-même. Alors moi, il y a une anecdote que j'aime, c'est sa façon d'avoir relié les livres et le football, pas seulement en nous invitant, mais d'avoir offert à l'équipe de France de 98 une véritable bibliothèque. Il a envoyé à l'équipe de France de football les livres des auteurs qu'il avait reçus à apostrophe. Donc pour essayer d'imaginer des vestiaires du Stade de France
qui sont en bibliothèque. Est-ce que c'était j'imagine bien ce que ça pouvait être d'être invité chez Pivot. Est-ce qu'on avait la trouille parce qu'on savait que bien se débrouiller face à Pivot, c'était quand même la promesse que le bouquin pouvait marcher pas mal derrière. L'inverse était terrible. Est-ce qu'on avait la trouille en allant chez Pivot ou pas ?
Non, fallait pas. Non, on pouvait pas avoir la trouille. D'abord, on était flattés, on était heureux. Votre éditeur était charmé. Les attachés de presse, tout le monde était très heureux. Et c'est vrai que c'était plutôt dans l'entourage. C'est toujours dans l'entourage des auteurs qu'il y a un peu de crainte. Mais vous y allez, vous connaissez l'homme, vous l'avez vécu dans des tas de circonstances, donc vous n'avez pas peur. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien. Et je pense que ça, au contraire, beaucoup d'auteurs étaient confiants. Ce type avait un œil formidable. Ce type savait, et puis d'abord, déjà, les choses étaient faites quand vous étiez invité. C'est-à-dire que déjà, vous étiez distingué parce que vous étiez invité à apostrophe et généralement avec une tablée de haut niveau et de haut vol. Donc, vous étiez déjà quelqu'un d'heureux et après avoir peur, ben oui, ça fait partie, j'allais dire, de la télévision. J'ai eu le bonheur, alors déjà avec Bernard Pivot, moi j'ai eu le bonheur d'être victime d'un mercato au football, puisque quand il est arrivé au Journal du Dimanche, moi j'avais la chronique littéraire et c'est lui qui l'a prise de façon tout à fait naturelle et on en a parlé tous les deux et j'étais moi plutôt heureux pour le Journal du Dimanche que Bernard Pivot arrive. Donc voilà, c'est tout ça, il était ça et il était aussi au théâtre. Moi j'ai eu le bonheur de l'interviewer à Aubagne en 2017 sur le plateau du théâtre d'Aubagne après qu'il ait fait son seul en scène sur les mots, parce que il est allé se coltiner cette espèce d'inquiétude et même tant d'émotion de se retrouver face au public
et cette frousse probablement terrible de se retrouver
maintenant. Premièrement il sentait l'amour que le public avait pour lui, l'attachement. Les gens qui étaient là étaient venus voir Bernard Pivot. Il était, j'allais dire, en terrain conquis et il le faisait très très bien. La seule chose qu'il me disait, c'est que moi, je ne veux pas avoir à apprendre par cœur.
Ouais.
J'y arrive pas. Et il se demandait même comment, moi, parce que j'ai fait des solos aussi, comment on pouvait apprendre par cœur. Mais cette interview que j'ai fait avec lui, là, c'est peut-être été le seul moment de trouille. Vous êtes en face du meilleur des meilleurs et vous devez l'interroger sur ce qu'il fait, sur son rapport au théâtre, son rapport au goût. Oui, là, soyons humbles, vous avez une petite trouille là quand même.
Daniel Picouli, formidable, merci beaucoup, vraiment, on sent que vous avez non seulement des souvenirs, mais que ce sont des choses que vous gardez dans votre cœur. Oui. Merci vraiment mille fois de votre passage chez nous. J'aimerais, Jérôme Garcin, que vous me disiez ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre là, de ce que Pivot pouvait déclencher chez ces auteurs-là, en fait. Il ne doit pas y avoir beaucoup quand même de journalistes littéraires, et peut-être même pas vous, Jérôme, pardon, qui pouvaient déclencher ce genre de choses chez un auteur, non ?
Non, si je devais comparer un peu l'effet, l'événement et le côté populaire de la culture qu'il a incarné, c'est quand même les années que j'ai faites au Masque et la Plume, qui était une émission qui destinait précisément le plus grand nombre à lire le plus de livres possible et si possible les meilleurs. Mais non, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Daniel Picouli. Je voudrais juste ajouter quand même cette chose que tout le monde sait, mais c'est que il répétait sans cesse que c'est le fait de faire de la télévision qui avait été son université. Il faut rappeler que c'était un fils d'épicier lyonnais qui n'a d'ailleurs entre parenthèses ne s'est jamais haussé du col, mais qui a appris aussi en interrogeant les grands intellectuels, les grands écrivains.
Et il raconte d'ailleurs, Jérôme Garcin, pardon de vous interrompre, il raconte que quand il rentre Figaro, effectivement, il y a cet entretien d'embauche qui se passe extrêmement mal et puis qui est rattrapé au vol au dernier moment en parlant de Bourgogne, je parle sous votre contrôle.
Du Beaujolais.
Et qu'après, il s'est rattrapé. C'est à ce moment-là qu'il rattrape tout le retard, au fond, le retard en littérature. Mais c'est peut-être pour ça que les gens l'aimaient autant aussi.
Mais attendez, ce qui est formidable, c'est que même, c'est là où il était très très fort et très sincère, c'est que même quand il savait, devant le grand public, à la télévision, il feignait de ne pas savoir. Ce que j'aimais, c'est que ces questions étaient des questions qu'on avait tous les uns et les autres envie de poser aux écrivains qu'il recevait. Mais lui avait la manière très, très humble, très, très juste, très, très claire de poser des questions, même à des esprits les plus savants. Et puis c'était encore une fois, on va parvenir sur l'intégrité dont j'ai parlé, mais qui était unique là aussi.
On y reviendra si sûrement tout à l'heure avec Pierre Assouline, parce qu'on parlera de son intégrité aussi pendant ces années Goncourt. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, Jérôme Garcin, juste avant qu'on retourne au Standard. On parlait de l'influence qu'il pouvait avoir effectivement en littérature, puisque les gens lisaient, allaient piocher des bouquins sur les tapes pivots. Vous vous souvenez sûrement de cette période, on est en 1981, et Régis Debray est en déplacement au Canada, il est le conseiller culture de François Mitterrand à l'époque, et il dit cette phrase. Il dit « Nous avons des projets, enlever à une émission le monopole du choix des titres et des auteurs, accordé à l'arbitraire d'un seul homme qui exerce une véritable dictature sur le marché du livre. » Alors, il s'est excusé après de cette phrase Debray.
De très bons amis. Surtout.
Mais voilà, exactement. Mais ça dit aussi la place qu'il avait pour qu'on puisse imaginer qu'au fond, le marché du livre dépendait de Bernard Pivot, c'est quand même un drôle de truc.
Ah mais c'est quelque chose d'unique, c'était le... Je pense que ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, des vendredis soirs, ne peuvent pas imaginer la puissance de feu qu'était cette émission qui effectivement provoquait des succès immédiats mais aussi d'ailleurs des insuccès quand l'auteur ou l'autrice était mal passé sur le plateau. C'était en plus une diffusion qui était mondiale puisque c'était retransmis aussi bien à New York qu'en Australie. C'est quelque chose d'absolument inimaginable et je peux vous donner et évidemment tout le monde allait chez lui, à part Julien Gracq. Personne, aucun auteur n'a refusé d'aller chez Bernard Pivot. À la même époque, dans les années 80, pour tout vous dire, Fabienne, j'avais créé et j'animais à la télévision une émission littéraire qui s'appelait Boîte aux lettres, et qui était donc concurrente d'Apostrophe. Mais chaque fois que je voulais inviter un écrivain, on me répondait chez l'éditeur, attendez de savoir si Pivot va le prendre ou pas.
Mais donc vous avez eu Julien Gracq.
C'était unique en son genre.
Moi, sous les yeux, Jérôme, j'ai Gracq, Sioran, Genet, Beckett, sur les irréductibles, c'est dans le gros papier du Monde de ce soir.
Oui, il y a quelques irréductibles, mais franchement, quand on voit que de Styron à Dumézil, encore une fois, ils sont tous allés, on mesure plutôt l'incroyable on pourrait raconter l'histoire des idées et de la littérature du siècle passé en regardant les quelques 780 numéros d'Apostrophe. C'est unique effectivement en son genre. Et puis c'était un passionné de lecture. Je peux vous dire que je l'ai beaucoup vu ces temps derniers, y compris il y a quelques semaines. Je suis allé chez lui pour l'embrasser. Il pouvait plus bouger, il était très fatigué. Mais il était chez lui, ce qui était, il me disait, ça c'est ma chance dans ma déchéance. Et qu'est-ce qu'il avait sur les genoux? Un livre. qui était le nouveau livre de Jean-Paul Dubois, L'Origine des larmes. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il a lu des livres. Il y avait aussi à côté une table, encore une fois, il y a 3 semaines, avec une pile de journaux.
On imagine tout à fait avec ses lunettes dans sa main droite.
Il était papivore jusqu'au bout.
Et le livre dans sa main gauche. Je voudrais qu'on retourne au standard, retrouver Christophe. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, comme vient de dire Jérôme Garcin, c'est vrai que c'était un grand moment, les émissions d'apostrophe, et puis démocratiser comme ça la langue française. Moi, j'étais ado à l'époque, c'était une grande découverte. J'étais loin d'être un premier de la classe, mais j'avais quand même le goût pour la lecture.
Lui non plus n'était pas premier de la classe, Christophe. Non, c'est vrai.
En tous les cas, le témoignage, c'était surtout après, quand jeune adulte, je me suis tâté à ces dictées. Je m'en souviens d'une, et c'est celle-là que j'avais racontée au standard juste avant vous, c'était « Élevons la culture », le titre de la dictée, et ça commençait par « Moi, architecte de la tour de Babel, on peut dire que j'en bave des ronds de chapeau ». Et je me souviens que dans sa fourberie légendaire, jusqu'au dernier moment, on ne se doutait pas que moi, architecte, il s'agissait d'une personne au féminin. Et dans la dernière phrase, il y avait un accord de verbe qui nous rappelait que donc c'était bien une femme qui s'exprimait. Et heureusement, on avait eu la relecture pour vite corriger et tout mettre au féminin. Et du coup, c'était des dictées savamment concoctées.
Vous vous souvenez combien vous avez fait de fautes, Christophe, ou pas du tout peut-être ?
Ah non, mais je l'ai gardé cette, parce que mon épouse y a eu droit, nos enfants y ont eu droit, puisque voilà, on est des tarés d'orthographe, donc elle fait partie des standards.
Bah merci mille fois, merci vraiment pour ce témoignage. Il est plus courageux que moi, Christophe. Youssef, parce que moi j'ai jamais osé la dictée de pivot, j'ai eu peur de faire évidemment beaucoup trop de fautes, parce qu'il y a eu ça aussi derrière les émissions de télé, derrière le prix Goncourt, il y avait encore une fois amener les mots tout simplement au milieu des gens et leur offrir cette dictée-là, la faire de manière extrêmement festive. À l'époque, ça commence en 85, est-ce que je me trompe ?
Alors ça, je ne me souviens pas, mais je me souviens de, et tout le monde peut se souvenir d'ailleurs, de sa frénésie sur Twitter.
Oui, absolument.
Parce qu'il tweetait régulièrement et il m'avait...
Il en a fait un livre d'ailleurs.
Il m'avait expliqué qu'en fait, il adorait cet exercice de concision et que le tweet, il le préparait soigneusement et une fois qu'il l'avait écrit sur le papier, il le recopiait et il le mettait sur son compte.
Sachant que il était effectivement extrêmement suivi sur Twitter, Bernard Pivot, par évidemment des gens qui ne l'avaient absolument jamais vu à la télévision, qui n'avaient jamais vu ou si ce n'est des extraits d'Apostrophe et Bouillon de Culture, mais la moyenne d'âge sur sa page Twitter allait bien au-delà des anciens.
De toute façon, il appartenait à tout le monde.
Ah, bah, exactement, et notamment à nous et à vous aussi peut-être. Bonsoir Pierre Assouline.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Les années Goncourt, Pierre Assouline, c'est vous à ce moment-là. Et on dit beaucoup que Bernard Pivot a changé d'une certaine façon la couleur du Goncourt. Est-ce que vous diriez la même chose ?
Il lui a apporté une des qualités qui étaient les siennes, à savoir une indépendance farouche. Et ça a beaucoup compté. Parce que le monde de l'édition connaissait évidemment très bien Bernard Pivot, avec Apostrophe, le magazine Lire. Donc on connaissait parfaitement ses qualités et sa façon de réagir, notamment aux pressions, quelles qu'elles soient. Et c'est un milieu où il y a tout le temps des pressions, ce qui est normal, voilà, c'est naturel. Eh bien, il a toujours dit, finalement, depuis que je suis président, j'ai rarement vu aussi peu de pression, presque aussi peu d'intérêt des éditeurs pour l'Académie Goncourt, parce que les éditeurs savaient que ça ne servait à rien. Mm-hmm. Ça ne servait à rien. Et en ce sens, il nous a protégés. Et ça, c'est une chose que je voudrais dire en premier. La deuxième, c'est qu'il a fait régner une ambiance formidable au sein de l'Académie Goncourt, c'est-à-dire il nous a communiqué sa jovialité. Et je parle, alors quand il était juré, moi je n'étais pas encore là, et il fait partie de ceux qui m'ont fait venir au Goncourt, mais après, en tant que président, il a fait régner cette bonne humeur. Je me rappellerai toujours d'une phrase, c'est que, vous savez, nous on termine le déjeuner vers 14h30, 15h, et souvent on était là à 15h30 à se raconter des tas d'histoires tous, et il disait, oh là là, il va falloir se séparer. Ce serait bien si on pouvait encore rester. Et ça, c'était formidable.
Est-ce que vous pensez, Pierre Assouline, qu'il a fait rentrer des bouquins au Goncourt qui n'y seraient pas rentrés sans lui, sans Bernard Pivot ? Est-ce qu'il a orienté des lectures qui n'étaient pas forcément des lectures Goncourt ? Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, des lectures Goncourt, mais...
D'abord, je crois qu'il n'aurait pas dit bouquins, mais il aurait dit livres.
Pardon.
Pardon. Mais oui, il a bien sûr qu'il a fait venir des livres et des auteurs, mais tous les membres du jury, par définition. On est 10 autour de la table, il n'y en a pas un qui a les mêmes goûts que l'autre. Et c'est pour ça qu'on s'engueule tout le temps, c'est ça qui est bien. Et lui, il avait ses c'est pas ses chouchous, mais il avait ses goûts à lui. Et bien entendu, vous savez, c'est quelqu'un qui avait, parmi ses goûts littéraires, il y avait des auteurs qui étaient très peu connus aujourd'hui, comme par exemple Henri Béraud, c'est un Lyonnais. Bon, qui a eu le prix Goncourt avant la guerre. Mais personne ne connaît aujourd'hui Henri Béraud. Nous, on en parlait parce que tous les deux, on adorait cet écrivain, parce que c'était vraiment le bouchon lyonnais, c'est tout ça. Mais par exemple, Antoine Blondin, il adorait Blondin. Et puis d'autres, évidemment. Jérôme, tout à l'heure, Garcin a cité Jean-Paul Dubois. Bernard Pivot a été l'un des, on peut le dire maintenant, il a été l'un des artisans du Goncourt de Jean-Paul Dubois parce qu'il admirait ce livre et cet auteur.
Il disait quand il est rentré en 2004, c'est-à-dire juste si je puis dire à l'Académie Goncourt, il disait mais je suis le seul à ne pas être écrivain en fait à rentrer dans cette académie, et je me demandais selon vous si ça l'amusait en fait encore une fois de ne pas être de ce sérail-là, en fait, alors, d'être le seul à ne pas avoir écrit, même s'il l'a fait, même s'il l'avait fait par ailleurs et qu'il l'a fait après.
Non, mais il faut nuancer quand même. C'est quelqu'un qui dit « je ne suis pas écrivain », mais qui a publié une vingtaine de livres. Tout de même, on connaît tellement de gens qui ont publié deux livres de cuisine et qui se présentent comme écrivains, qu'on peut quand même dire que lui qui a commencé par publier deux romans, puis des essais, puis des dictionnaires, bon, une vingtaine en tout, et qui ont été écrits par lui-même, et pas par d'autres. Tout ça fait que, je ne dirais pas que c'est une coquetterie, c'est pas du tout, mais il anticipait sur le fait que la presse, les médias, et même au sein de l'Académie, des gens diraient « ben oui, mais c'est pas vraiment un écrivain ». C'est pour ça que quand je dis que oui, ça a été le journaliste qui est rentré, non, c'est pas un journaliste, c'est vrai que c'est un écrivain atypique, et que c'est un homme qui a un statut dans le milieu littéraire qui est unique. Et donc, c'est pas un écrivain qui a été élu à l'Académie Goncourt, c'est un Bernard Pivot. Et des Bernard Pivot, il n'y en a qu'un. C'est atypique. Journaliste, bien sûr, écrivain aussi, interprète de la curiosité publique, comme disait Pierre Nora. Voilà, c'est tout ça à la fois. Homme de télévision, homme de radio, homme de presse écrite. Voilà, mais toujours autour du livre.
Merci.
Et de la littérature.
Merci beaucoup. Merci vraiment, Pierre Assouline, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Jérôme Garcin, je voudrais revenir sur ce que nous dit Pierre Assouline et sur ce qu'était aussi Bernard Pivot. On dit toujours, c'est un peu la facilité de le dire lorsqu'une personne disparaît, que il ne peut plus y avoir d'autres, il ne peut plus y en avoir d'autres derrière, qu'il n'y a pas de relève, etc. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus cette place-là, selon vous, plus la même place à la télévision? Est-ce que c'est que notre goût pour les livres, au fond, n'est plus ce qu'il était, y compris à cette période pivot? Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jérôme Garcin?
Non, parce que je suis pas trop pessimiste. Je pense qu'il y aura d'autres très bons, et il y a d'autres très bons animateurs et animatrices.
Il y a François Bunel et Augustin Trapenard sont sur l'antenne de France Inter demain matin, on les embrasse.
Absolument. Je ne suis pas. Mais disons que ce qui faisait la spécificité de Bernard Pivot, effectivement, est incomparable et, à mon avis, pas répétable. C'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un qui appartient au service public, à notre service public, et qui ne se vend pas, qui ne se préfère pas. Ça, je crois que c'est tout à fait unique. Je voudrais juste ajouter un mot à ce que vient de dire Pierre Assouline, qui est tout à fait juste. C'est que c'est lui qui disait qu'il n'était pas écrivain. C'est pas nous qui le disions. Et c'est la raison pour laquelle il avait refusé même d'entrer à l'Académie française. Ouais. Il disait, j'ai choisi l'Académie Goncourt parce que c'est une famille et qu'on y mange bien. Je pense qu'il n'avait pas tort. Mais juste pour vous donner un souvenir très personnel et qui va dans le même sens. Et d'il y a quelques semaines, hein, quand j'ai revu Bernard Pivot, il m'a dit, tu sais, mais mon âge d'or, ça n'a pas été les années apostrophes, ça n'a même pas été ma jeunesse, ça a été entre mes 70 et mes 80 ans, parce que c'est l'âge auquel j'ai écrit mes livres. Donc, on le disait, hein, sur le vin, sur l'amitié, sur les mots rares, les traités sur les expressions obsolètes ou les mots rares sont formidables. C'est l'âge où j'ai fait de la scène, parce qu'il a fait aussi de la scène, pour parler justement de ces mots rares. Où j'ai présidé, me disait-il, dans la bonne humeur, l'Académie Goncourt, où j'ai voyagé, et où il me disait, et où j'ai aimé, et passionnément aimé. Et ça, je trouve que cet homme-là, qui était à quelques semaines de sa fin, qui dit que son plus bel âge, ça a été finalement le dernier, quand il a eu une liberté qu'il n'avait peut-être pas autrefois. Je trouve que c'est une leçon de absolument magnifique. Je vous rappelle quand même une de ses plus belles expressions, c'est quand il disait qu'il travaillait à la télévision, mais aussi dans ses livres, à l'augmentation du goût de la vie. Non pas du coût, mais du goût de la vie. Ben ça, je pense que c'est une expression qu'on a envie de se répéter aujourd'hui.
Et qu'on a envie de garder du goût de la vie et du goût des autres. Bonsoir Pierre Coutel.
Bonsoir.
Vous êtes libraire, Pierre Coutel, libraire à la librairie Mola qui est à Bordeaux. Alors vous êtes trop jeune pour décrire ce fameux effet pivot sur les ventes. Il n'y avait pas de table apostrophe dans votre librairie, Pierre Coutel, mais il paraît que les vieux lecteurs vous en parlent encore d'apostrophe, c'est vrai ça ?
Oui, tout à fait. C'était une sorte de Bernard Pivot, c'était une sorte de statue du commandeur, mais aimable, pas effrayante. Au contraire, qui a toujours su transmettre, comme l'ont dit vos intervenants, l'envie et le goût de la lecture. Et effectivement, on a régulièrement des lecteurs, souvent des gens, voilà, on va dire nés dans l'après-guerre, dans la génération du baby-boom, pour qui apostrophe était quelque chose de fondamental et qui nous en parle encore et des souvenirs. Et puis par le site de l'INA qui permet aussi de retrouver ces images-là. Donc c'est encore une figure qui n'a jamais cessé d'être présente.
Dites donc, né dans la génération d'après-guerre, Pierre Coutel, moi aussi je m'en souviens de Bernard Pivot.
Ilana
Youssef aussi, restez avec nous, pardon Ilana.
Oui Pierre, je voulais vous poser une question, parce que d'accord, vous n'étiez pas encore libraire pendant les années pivot à la télévision, cependant, elles ont quand même eu une grande influence sur vous.
Oui, alors effectivement, moi c'est un souvenir pour le coup d'enfance, effectivement, c'est un souvenir de moment familial. On regardait peu la télévision tous ensemble, mais effectivement, apostrophe faisait partie des choses qui étaient, on va dire, tolérées, au contraire même légitimées. C'était une émission importante où la famille se réunissait. Donc c'était l'idée que parler des livres, c'était important et ça pouvait être intéressant. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a été transmis par apostrophe et l'émission de Bernard Pivot. C'était l'idée qu'effectivement, écouter des gens qui parlent de ce qu'ils ont écrit était une chose assez passionnante.
Et même d'ailleurs, les écouter parler, et même peut-être parfois sans acheter le livre d'ailleurs, mais c'est aussi le bonheur de les écouter parler, de parler de leur travail et de leur littérature. Est-ce que vous avez vu, vous le libraire, dans le choix des Goncourt, on en parlait avec Pierre Assouline tout à l'heure, est-ce que dans le choix des Goncourt, vous voyiez, on pouvait voir une patte Bernard Pivot ? Alors on sait bien que c'est collectif, hein, on est d'accord, mais est-ce que ça existe ça ?
Oui, ça, je pense que effectivement Pierre Assouline en a très bien parlé. Il y avait les années où il a été d'abord membre, puis président du jury. Et là, je pense qu'on rejoint ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire le souvenir et l'attachement profond que les lecteurs avaient à Bernard Pivot. Il y avait une confiance parce que c'était Pivot qui présidait. Et il y avait l'idée que les livres choisis par l'Académie Goncourt au moment où Pivot était président avaient quand même probablement, si ce n'est une valeur, au moins un intérêt ou un type de lecture auquel les gens étaient très attachés. Et ça, on le sentait véritablement. Je pense que les gens ne connaissent pas toujours qui est le président de l'Académie Goncourt, mais quand c'est Pivot qui l'a été, il y avait un véritable attachement des lecteurs à cela.
Est-ce que ça donne envie de j'allais dire, sortir les bouquins Pivot, en fait, à la librairie, là, ces prochains jours, peut-être des choses qu'on n'a pas lues depuis très longtemps, et dire, tiens, souvenez-vous, ça s'est passé à tel moment, et Pivot en avait parlé dans Apostrophe ou dans Bouillon de Culture, ça existe, ça, Pierre Coutel, quand on est libraire, d'imaginer ça ?
Oui, bien sûr. C'est, nous, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire dès cet après-midi, où effectivement, comme l'a rappelé Jérôme Garcin, Bernard Pivot a lui-même écrit des livres, dont des livres de mémoire assez assez magnifiques. Et puis, effectivement, rappeler tout un tas d'auteurs que lui a mis en avant, y compris beaucoup aussi des auteurs de sciences humaines, dont dont Yankelevitch, dont plein d'autres. Mmh. Donc, tout à fait, c'est le genre de choses qu'effectivement, qui vont être mis en place à la librairie.
Eh ben, écoutez, tant mieux. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Pierre Coutet. Alors, il y a les moments Pivot d'apostrophe. Avec la première auditrice Ilana, on se souvenait toutes les deux du moment Modiano. Est-ce que vous avez un moment pivot, vous ?
Oui, absolument, j'en ai un. Je me souviens de l'émission où il avait invité André Brink, écrivain sud-africain.
Saison blanche et sèche.
Voilà, absolument, une saison blanche et sèche, c'est difficile à dire. Et je crois que c'est pour ce livre-là qu'il avait été invité. Et en fait, on découvrait à travers cet écrivain bah, tout un monde, le monde de l'apartheid sud-africain, de l'engagement pour les droits de l'homme, quel qu'il soit. Et c'était absolument... Ce qu'il y avait de fascinant dans les émissions de Pivot, et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il se passait toujours quelque chose. C'était pas du buzz, c'était mais il se passait toujours quelque chose. Il faisait en sorte de provoquer dans la discussion quelque chose qui ferait réagir et qui nous marquerait.
On va écouter un tout petit extrait, justement, c'est le moment Duras, écoutez ce que ça donnait.
Alors, je sais bien, Marie Duras, que c'est vrai, vous avez obtenu d'autres succès, j'en ai énuméré d'ailleurs avant ce générique, mais quand même, celui-là, 100 000 exemplaires en 4 semaines, c'est absolument fabuleux. Est-ce que votre sensibilité, qui est très aiguë, très pointue, avait un peu pressenti ce succès ?
Non, non, non. Non, tout au contraire. Après le succès de La maladie de la mort, j'avais peur pour ce livre. Enfin, une peur relative, remarquez. Mais j'avais peur qu'il ne soit pas celui que les gens attendaient de moi.
C'est le même extrait où elle dit « Je ne sais pas ce que c'est qu'écrire, je ne sais pas ». Et cet extrait sera repassé en boucle après. Vous en souvenez peut-être, Jérôme Garcin, parce que la séquence sera rediffusée, surtout parce que Duras va remporter le prix Goncourt à peine un mois après cette interview-là.
Oui, absolument. Moi, je suis un peu comme vous, Fabienne. J'ai un souvenir inoubliable de son entretien avec l'immense Nabokov,
ouais.
dont la théière était remplie de whisky, en fait, et qui avait préparé ses réponses.
Ouais. Mais encore un peu de thé, Monsieur Nabokov.
Voilà, encore un peu de thé, Monsieur Nabokov, et qui est quand même, quand on se souvient de ce qu'il répondait aux questions de Bernard Pivot, qui est un très grand moment, évidemment, de télévision, mais aussi de littérature. C'était la littérature en direct, et avec tous les monstres sacrés, évidemment. Donc, vous citiez Duras, mais on pourrait citer Yourcenar aussi, qui avait fait des émissions incroyables. Puis, je vous rappelle que c'était l'époque où même les présidents de la République croyaient devoir aller à apostrophe pour montrer qu'ils avaient des lettres. Ça allait de Giscard à François Mitterrand.
Et les présidents de la culture passaient tous, mais j'ai des souvenirs de ça, à Bouillon de Culture, et on les titillait pour savoir si jusqu'à quel point ils étaient bons, en fait.
Oui, absolument, c'était un test. Il fallait passer chez Pivot pour pouvoir être élu ensuite.
Ben écoutez, merci vraiment beaucoup. On est heureux d'avoir pu rendre hommage à Bernard Pivot dans Le téléphone sonne ce soir. Jérôme Garcin, je vous remercie beaucoup. Merci à tous qui avaient participé à cette émission. Merci à vous, Ilana Mouriouceff, pour votre présence et puis d'avoir aussi ouvert très largement votre carnet d'adresses.